Bonjour. Heureux de vous retrouver. Et lourd de la responsabilité qui m'est faite d'essayer de vous transmettre quelque chose de la parole de notre Seigneur. J'ai d'habitude des prédications assez structurées, je pense, avec un début, un milieu, une fin. Je ne sais pas si ça sera le cas aujourd'hui. Et ça fait partie des chemins que prend Dieu avec nous parfois, de nous mener dans certains moments, certains chemins, un peu à sa guise, et nous forcer quand même d'être debout face à lui. Donc je vais essayer de vous dire tout ce que j'aimerais vraiment partager avec vous ce matin. Et puis si à un moment je suis un peu en panne, ou je sais que Yann, mon frère, sera là pour peut-être reprendre le flambeau et terminer ce que je ne serai pas en possibilité de conclure. Je voulais vous parler du veau d'or, mais d'une façon qui se voulait structurée, puis des événements ont fait que ça s'est moins structuré et ça a basculé sur quelque chose d'autre, mais qui en fait est dans cette continuité. Et ce que ça m'a dit et apporté, j'aimerais vraiment pouvoir essayer de vous le transmettre pour que ça puisse nous faire du bien à tous. Pourquoi le veau d'or? Bon, simplement, tard, on a parlé, on est en pleine Coupe du Monde. Et j'étais, comme vous tous, très très étonné. Marie-Pierre m'en parlait le week-end dernier, de cette espèce de caisse de résonance incroyable pour ce qui n'est qu'un ballon. Et c'est moi qui le dis, que je suis un passionné absolu de ballon. Il y a quand même des choses qui vont un peu loin, et surtout avec ces fameux Brésiliens, nos amis du Brésil, qui, avant chaque match, se mettent à prier, à pleurer. Quand ils perdent, ils prient. Quand ils gagnent, ils prient. Quand ils trichent, ils prient. Enfin, c'est extraordinaire. Et là, je me dis quand même, Dieu était mis dans une drôle de sauce. Je me demande vraiment s'il a quelque chose à voir avec ça. Et si ça ne serait pas un de nos veaux d'or modernes. Par exemple, il y a l'avançant de l'équipe du Brésil, il s'appelle Fred. C'était un très bon joueur. Là, il a été très mauvais. Et au premier match, il a simulé un pénalty. C'est-à-dire qu'il a fait semblant d'avoir une faute. Il a hurlé, il y a eu pénalty pour lui. Et l'équipe du Brésil a gagné grâce à ça. Alors, il faut savoir que Fred est un chrétien. Il le proclame, il le revendique, comme beaucoup des Brésiliens qui sont là. Et j'en parlais avec je ne sais plus qui. On se disait quand même, quel exemple. Il dit à tout le monde son amour pour Dieu, il le proclame, et tant mieux. Et là, dès le premier match, 10e minute, tac, il fait une faute de mensonge. Enfin, voilà. Donc, c'est sous ces petits éléments que je m'étais dit, mais comment on en est arrivé là et quel est cet état d'esprit qui nous fait finalement déifier, idolâtrer des choses ou des gens ou des événements, peut-être au détriment de ce que nous devrions déifier, c'est-à-dire notre Seigneur. Donc j'ai eu envie de replonger un peu dans le veau d'or que vous connaissez tous, essayer de voir qu'est-ce qu'on pouvait en tirer peut-être de début de réponse à cette question que je me posais. Donc je propose que nous lisions ensemble dans l'Exode 32, le début de l'épisode du veau d'or. Il y a quelque temps, j'avais relu l'épisode du déluge. Donc là, ça sera un peu moins long. On va lire que le début, donc chapitre 32. Donc, vous vous souvenez, Moïse a été appelé sur la montagne par l'Éternel. Ils ont déjà été mis en contact avec la présence de l'Éternel à travers la fumée, etc. Et là, vraiment, c'est l'étape ultime. Moïse doit aller à cette rencontre-là pour recevoir toutes les instructions définitives. Et ça va donc durer un certain temps, 40 jours et 40 nuits. Et voilà donc ce qui se passe au moment du veau d'or. Le peuple vit que Moïse tardait à descendre de la montagne. Alors le peuple s'assembla autour d'Aaron et lui dit « Lève-toi ! Fais-nous des dieux qui marchent devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait monter du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qui lui est arrivé. » Aaron leur dit, « Défaites les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. » Et tous les gens du peuple se défirent des anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles et les apportèrent à Aaron. Il reçut l'or de leurs mains, le façonna avec le burin et fit un veau en métal fondu. Puis ils dirent, « Israël, les voici tes dieux qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. » Lorsque Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et s'écria : Demain, il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin, ils offrirent des holocaustes et présentèrent des sacrifices de communion. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Ensuite, Moïse revient, on verra un peu plus tard. Mais voilà ce qu'est cet épisode du veau d'or. Alors, très rapidement et un peu peut-être en vrac, voilà ce que ça, pour le moment, ça me. Dans quel sens ça m'interpelle. D'abord, ce peuple-là, il a été vraiment mis en présence de Dieu. Il a été sauvé par Dieu. Il était sorti d'Égypte. La mer Rouge s'est ouverte. Il y a eu les 10 plaies. Donc, il a vraiment été mis en présence de la puissance de Dieu. S'il y a un peuple qui ne doit pas douter de l'existence de Dieu, c'est bien ce peuple-là. Et pourtant, petit à petit, on le verra, on le voit précédemment dans Exode 14, Exode 15, Exode 16, Exode 17, je vais les lire très très vite. Ils sont déjà dans, dès que les choses se passent moins bien, que c'est plus Euro Disney, ils sont déjà dans ce que la Bible appelle le murmure. Alors, je ne connais pas le texte exact en hébreu, mais en français c'est traduit comme ça. Et j'aime bien ce mot-là, parce que le murmure, c'est une colère rentrée, c'est, on n'ose pas le dire, c'est quelque chose d'assez hypocrite. Ainsi, dans 14:11, ils dirent à Moïse, est-ce parce qu'il n'y avait point de tombe en Égypte que tu nous as emmenés pour mourir au désert, que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte ? Un peu plus tard, Exode 15, 24, le peuple murmura contre Moïse en disant, que boirons-nous ? Exode 16, verset 3, les Israélites leur dirent, que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, que nous étions assis près des marmites de viande, car nous mangeions du pain à satiété, car vous nous avez fait venir dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette assemblée. Et encore plus tard, en verset 17, chapitre 17, verset 3, le peuple était là, pressé par la soif, et le peuple murmurait contre Moïse. Donc, malgré tout ce qu'ils ont vu, imaginez ce qu'ils ont vécu, quand même, c'est extraordinaire, ce qu'ils ont, ils ont été témoins, mais actifs, ils sont déjà dans le murmure parce que les choses se passent un peu moins bien. Et il suffit qu'ils perdent leur guide pour complètement être déstabilisés au point de faire tout ce qui leur avait été interdit. Ils ne voient plus Moïse, c'est-à-dire qu'en fait leur amour pour Dieu, c'était un amour qui était comme quand on voit le doigt et qu'il y a la lune derrière, on ne voit que le doigt. En fait, il pensait que Moïse, il savait bien que Moïse était le représentant de l'Éternel, mais ils n'avaient sans doute pas réussi à franchir l'étape de la vraie foi, et il leur fallait une figure, quelqu'un, quelque chose sur lequel ils puissent poser leur espérance et leur foi. Or, ce n'est évidemment qu'un homme. Et dès que cet homme disparaît, alors qu'il dit qu'il va revenir, en plus ils savent où est-ce qu'il est, mais ils sont totalement perdus. Ce besoin de déifier les hommes, on peut le voir aussi dans Actes. C'est arrivé à Paul de la même façon. Et Paul, lui, évidemment, a réagi avec ses disciples très, très vertement à cette tentative des gens de le déifier. On le voit dans Actes 12, 22. Peut-être 14, 11, ça sera plus clair, excusez-moi, parce qu'il y a plusieurs épisodes où ceci arrive. À la vue de ce que Paul avait fait, les foules élevèrent la voix et dirent en langue lyconienne, les dieux sous forme humaine sont descendus vers nous. Et ils veulent même ensuite leur porter des sacrifices, etc. Ils sont forcés de s'enfuir pour ne pas tomber sous le joug de cette idolâtrie. Donc, première idée, ne pas se tromper de foi. On peut avoir été amené à Christ par des prédicateurs extraordinaires, par des exemples, par des familles, par des parents, par toutes sortes d'événements, mais ce ne sont que des vecteurs de transmission. Ces gens-là vont disparaître, ces événements-là vont passer, mais la foi, elle est éternelle parce qu'elle est le fruit d'une entité éternelle. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que Dieu lui-même, dans le Deutéronome, va aller à l'encontre de cette tentative typiquement humaine de mettre un visage sur notre foi. On le voit dans Deutéronome 4, où il est dit, au verset 14, « En ce temps-là, l'Éternel me commanda de vous enseigner des prescriptions, des ordonnances, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dans lequel vous entrez pour en prendre possession. Puisque vous n'avez vu aucune figure le jour où l'Éternel vous parla du milieu du feu, prenez bien garde à vos âmes. De peur que vous ne vous corrompiez, que vous ne vous fassiez une statue, une représentation de quelque effigie sur le modèle d'un homme ou d'une femme, sur le modèle de quelque bête qui soit sur la terre, sur le modèle de quelque oiseau qui vole dans le ciel, sur le modèle de quelque animal qui rampe sur le sol, et aussi de peur que levant les yeux vers le ciel et voyant le soleil, la lune et les étoiles, toute l'armée des cieux, tu ne sois entraîné à te prosterner devant eux et à leur rendre un culte. » Donc les avertissements sont là. Ce qui mérite notre amour, c'est Dieu dans ce qui nous donne d'espérance au fond de notre cœur, mais en aucun cas dans quelque chose qui soit un sous-dieu qui va pouvoir le représenter. Et le veau d'or, on a toujours tendance, enfin je croyais, que c'était vraiment un acte de païens. Ils étaient devenus païens, mais ce n'est pas vrai. Quand on lit le texte, pas du tout. Simplement, ils veulent que Dieu redevienne à leur taille, à leur image, puisqu'ils ont perdu Moïse, qui était la représentation de Dieu. Si on avait Moïse dans notre église, ça serait merveilleux. On ne l'a pas. Et heureusement, parce que sinon, on serait sans doute fasciné et on oublierait la personne, l'entité qui se cache derrière. Eh bien, dès qu'ils perdent ce Moïse-là, ils ont besoin de quelque chose. Et c'est intéressant parce que c'est vraiment très clair. Et je m'en suis rendu compte en le lisant. Regardez au verset 5. Lorsque Aaron vit cela, donc il vit le veau d'or, il bâtit un autel devant lui et s'écria, « Demain, il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. » Donc ce n'est pas fête en l'honneur de nos nouveaux dieux, Bizabou et Ratatouille. C'est en l'honneur de l'Éternel. Mais l'Éternel représenté enfin par ces petites choses en or, pour lesquelles ils se sont dépouillés. Ils ont donné leurs richesses, tous leurs anneaux. Alors sans doute que les exégètes savent exactement ce que signifiaient ces anneaux dans les oreilles, ça avait peut-être un sens particulier, il n'empêche que ça a l'air d'être précieux, et ils le donnent. Donc il y a simplement une déviation du culte à l'Éternel. C'est pas un reniement. Et ça, j'avais tendance à l'avoir perdu de vue dans le veau d'or. Et c'est pour ça que c'est dangereux pour nous et que ça nous parle. C'est que le veau d'or, il suffit simplement de dévier un tout petit peu. Et on est toujours à l'église, on est toujours chrétien, mais on se trompe de cible. Alors, une fois qu'ils ont fait ce culte, ils font un autel, ils font confiance à Aaron, qui est quand même le grand sacrificateur. Donc tout le monde se trompe. Il se dit, si lui nous autorise ça, on peut aller dedans parce qu'on est dans notre bon droit. On ne renie pas notre Éternel. Simplement, on le met à notre taille, à notre hauteur, avec ces petites figurines. Alors vous pouvez en faire ce que vous voulez de ces figurines. Aujourd'hui, des statues, des vitraux, des coupes du monde, tout est possible. Et de faire passer notre foi, notre espérance, notre envie de croire en quelque chose qui nous fasse du bien et dont on se sent imprégné à l'intérieur, mais de rabaisser le niveau, parce que ce niveau-là, il est trop haut. Et ça, Dieu ne peut pas le supporter. Même si nous, ça nous donne de la joie. Regardez, une fois qu'ils ont fait ça, ils ne murmurent plus. Ils se lèvent de bon matin. Ils sont vigoureux. Allez, on y va. Ils ne sont pas en train de se prélasser. Ils offrent des holocaustes, ils présentent des sacrifices. Ils s'assoient pour boire et pour manger. Ils se lèvent pour se divertir. Dans les films qui ont été faits sur ça, ça devient des bacchanales épouvantables, le veau d'or, ça devient une espèce de... Enfin, vous m'avez compris. Mais a priori, quand on lit texte, ce n'est pas ça. C'est simplement la joie qui revient. Moïse nous a peut-être abandonnés, on ne sait pas où il est. Heureusement, on a Aaron, le numéro 2, qui reprend les choses en main. On va créer ces petites statuettes qui vont nous permettre de redonner une figure à ce Dieu qui nous semble nous abandonner, et ça nous redonne la joie, et on boit, on mange, et on est heureux. Mais ça, Dieu ne va pas le supporter. Et plus tard, on va voir qu'il va demander à Moïse, il dit, je vais exterminer ce peuple-là, qui n'a pas cru en moi, pas de la façon dont j'ai demandé. Et évidemment, Moïse va devenir, vous le savez, la figure de Jésus, ben, ça sera notre premier avocat. Il va dire, non, je t'en prie, tu leur as dit que c'était ton peuple, tu ne peux pas les exterminer. Et il a cet argument très fort qui revient à l'histoire du buteur de football, Fred, même s'il n'a pas marqué un but. C'est, il dit, au verset 12, « Pourquoi les Égyptiens diraient-ils, c'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir, c'est pour les tuer dans les montagnes et pour les exterminer de la surface du sol ? Reviens de l'ardeur de ta colère et du regret au sujet du malheur de ton peuple. » Donc il donne un excellent argument, Moïse, très bon avocat. Il dit, attends, mais si tu fais ça, les gens en Égypte qui ont vu la puissance, ta puissance, vont se dire, mais c'est une puissance inutile, c'est une puissance mauvaise, puisque quelques mois plus tard, il les extermine. Donc tu ne peux pas donner cet exemple-là. Toi qui es l'Éternel, tu dois être à la hauteur de ta promesse. Et ce n'est pas parce que les hommes ne sont pas à la hauteur de leur foi que toi, tu ne dois pas être à la hauteur de la promesse. Quel culot quand même pour oser dire ça à l'Éternel, et l'Éternel l'entend. Mais tout ça a un prix, c'est-à-dire que le prix de nos petites déviances, de nos petites anicroches à la foi parfaite qu'on devrait avoir, se paye. Donc Moïse revient, se fâche évidemment au verset 20. 19, comme il approchait du camp, il vit le veau et les danses. La colère de Moïse s'enflamma, il jeta de ses mains les tables et les brisa au pied de la montagne. Il prit le veau qu'ils avaient fait et le brûla au feu. Il le réduisit en une poussière qu'il éparpilla à la surface de l'eau et fit boire les Israélites. Ça aussi, c'est intéressant. Il casse ces images qui sont des paravents vers l'amour total de Dieu. Il le met dans l'eau, mais il force le peuple à boire de cette eau-là, qui devait être donc une forme d'eau un peu amère, enfin je présume, ça ne devait pas être excellent. Buvez quand même le fruit de votre erreur. Et ça, c'est quelque chose aussi. Évidemment que Dieu nous pardonne par la grâce de Jésus, on est, malgré tout ce qu'on peut faire, on est sauvé, c'est une grâce merveilleuse. Mais attention à ne pas dévier tout le temps un petit peu et un petit peu, parce que ça ne remet pas en cause le sauvetage, j'allais dire. Mais ça remet en cause peut-être la qualité de notre vie ici-bas. L'eau peut devenir amère, puisqu'elle va être mélangée à toutes les petites pollutions que nos veaux d'or différents ont mis dedans. Même si on dit j'arrête, je les écrase. Oui, je les écrase. Mais ça y est, c'est rentré dans notre sang, c'est quelque part, et petit à petit, ça nous pollue. Et puis un peu plus loin, c'est terrible. Alors, Moïse va aller plus loin. Ainsi par l'Éternel, le Dieu d'Israël, que chacun de vous mette son épée au côté, traversez, parcourez le camp d'une porte à l'autre, et que chacun tue son frère, son ami, son parent. Les fils de Lévi agirent selon l'ordre de Moïse, et il tomba parmi le peuple environ 3000 hommes ce jour-là. C'est-à-dire que cette petite désobéissance, cette petite déviance, elle va créer des morts. Alors là, c'est des morts physiques, c'est quand même un carnage incroyable. Mais dans nos vies à nous, que sachons-nous de... Que savons-nous, je ne sais pas comment, pardon, de ce que ça va créer en mort spirituelle, en dégâts collatéraux. Vous avez vu en Palestine, il y a une bombe qui est tombée sur eux, qui est une famille de 18, boum. Alors peut-être que la personne était en effet un terroriste qui a fait des choses épouvantables, mais les 17 qui étaient autour, ils sont pris tout en pleine tête. Attention à nos petites déviances. C'est vraiment ce que j'ai appris en relisant ce veau d'or, c'est que c'est pas une... C'est pas un virement de bord païen, c'est pas ça. C'est juste une peur, c'est juste une terreur qui fait que on se rattache à quelque chose et on s'affaiblit. On s'affaiblit et on affaiblit les gens autour de nous, ceux à qui on doit donner l'exemple, ceux à qui on doit être des témoins, puis ceux qui peut-être sont un peu à nos côtés, pour qui on est des petits Moïse, parce qu'on est toujours le petit Moïse de quelqu'un. Même si on aimerait ne pas l'être, parce qu'ils sont plus jeunes dans la foi, ou plus fragiles, ou plus faibles à certains moments de leur existence, ben ils se raccrochent à toi, à moi, à lui, il tient la route. Ah oui, mais si tu t'écroules, c'est les dominos, tout va s'écrouler autour. Attention à ça. Et c'est tellement vrai qu'au verset 25, Moïse vit que le peuple était dans le désordre et qu'Aaron l'avait abandonné au désordre. Vous voyez, c'est le mot désordre, c'est pas le mot... impureté, païen, non, et dans le désordre simplement. en sorte qu'il était presque réduit à rien devant ses adversaires. Moïse se dit, si nos adversaires, là, si les ennemis qui sont tout autour, ils voient qu'on est dans cet état-là, ils viennent avec leur armée, ils nous réduisent à rien. Nous, si on est dans cet état-là, dans le désordre intérieur, mais c'est le diable qui va nous réduire à néant. Il va le voir tout de suite. Et encore une fois, les effets collatéraux, etc. Et tout ça parce que... Pourquoi ? Parce qu'ils ont eu peur. Parce que Moïse est parti. Il n'était pas là. Des enfants abandonnés. Et c'est la deuxième partie de ce que je voulais vous dire, et qui n'est peut-être pas la plus facile, et qui n'était pas prévue. Au moment où je travaillais sur cette prédication, j'ai eu un coup de fil de Suzanne Darmus. Vous connaissez Suzanne, évidemment, qui était en service de retraite, qui est de nouveau à l'hôpital. Elle ne va pas bien, son cœur est très très faible. Et hier, elle m'a téléphoné et elle me dit, très mal, 84 ans, Luc était seul, j'ai peur de mourir. Terrible à entendre. J'ai peur de mourir. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce que tu dis ? Alors, et cette peur-là, je l'ai entendue et je me suis dit, mais oui, le veau d'or, ce n'est que ça. Nos veaux d'or ne sont que ça. C'est nos réactions devant la peur de mourir. Et on peut avoir toutes les certitudes que l'on pense avoir, toute la foi, quand on est seul comme Suzanne dans sa chambre. Là, il n'y a rien. Il est 9h du soir, il n'y a plus de visite, il n'y a plus rien. On est face à son destin d'humain et on a peur de mourir. Alors certains vont la cacher, cette peur, en faisant mille choses, en montant tous les veaux d'or du monde, qui ne nous éloignent pas de la gloire de Dieu. On sait qu'elle est là, mais peut-être qu'elle est tellement crue, en nous mettant tellement face à l'inanité de nos jours, qu'on va s'inventer des petits veaux d'or, des coupes du monde, des fortunes, des carrières, des amours, de ce que vous voulez. Ou des lieux de culte hyper bien. Enfin, vraiment, chacun a sa propre vie sur ça. Et ça peut être des veaux d'or qui ne sont pas du tout scandaleux, qui ne sont pas... c'est pas la drogue, c'est pas ça du tout. Et ça va camoufler cette peur. Il y avait une chanson de Jean-Jacques Goldman il y a quelques années qui s'appelait « On ira » et dans laquelle il disait « On ira, on se promène, on va prendre la voiture, on va partir là ». Il disait à un moment « Comme tous ces gens qui font comme s'ils avaient oublié qu'un jour il faudra mourir ». Et le veau d'or, finalement, ce n'est pour moi que l'expression d'une terreur intime d'un peuple individuel, tous ensemble. Moïse est parti, Moïse avait les clés, Moïse savait, Moïse nous rassurait. Et je me retrouve face à ça, qui nous concerne tous, quel que soit l'âge. Et... on peut même se demander pourquoi on est chrétien, finalement, pourquoi est-ce qu'on est croyant ? Est-ce que ce n'est pas pour ça, essentiellement ? Parce qu'à un moment ou l'autre, quand on a rencontré Dieu, on a senti aussi la vanité de nos existences et le fait qu'il y avait quelque chose qui était de l'ordre du grain de sable dans l'immensité de l'univers et quelle était notre place là-dedans. Et si Dieu, si Jésus n'est qu'une façon de mieux vivre, de mieux apprécier ses camarades, sa famille, de mieux supporter son travail, de peut-être échapper à certaines facilités qui peuvent nous détruire de l'intérieur, c'est merveilleux. Mais si c'est que ça, ça ne peut pas durer longtemps. Le but ultime de notre foi, c'est d'être sauvé de la mort. Parce que qu'on veuille ou pas, qu'on se cache derrière ce paravent ou pas, elle nous terrorise. Comme soudain l'a terrorisé Suzanne, qui pourtant n'est pas du tout du genre à être une femme comme ça. C'est une femme, vous la connaissez, droite, simple au bon sens du terme, toujours travaillée. Et soudain, 84 ans, boum. Et alors, c'est pas très... Je m'excuse, je vous avais dit que c'est peut-être pas le message le plus joyeux, alors que nos chants étaient très beaux, mais tout ça va ensemble. On peut avoir ces chants-là, et cette fraternité, cet esprit de famille, parce que nous savons que cette histoire de la mort, elle est réglée. Et si elle n'était pas réglée, mais je ne nous donne pas 3 semaines pour vider notre église et vider les autres églises. Alors, pour conclure, c'est en ça que je vous dis que c'est un peu chaotique, mais je ne vois pas comment trouver de raisonnement fiable et intellectuellement satisfaisant pour évoquer, pour donner de l'espérance par rapport à ce que je viens de vous dire. Je voudrais simplement vous lire des textes maintenant. Des textes parce que c'est là, sur ces textes-là, que se base notre foi et notre espérance, et notre raison d'être ici. C'est d'abord Jésus, qui est notre Moïse, super Moïse à nous. Et heureusement qu'on ne le voit pas. Heureusement, limite, qu'on n'ait pas vécu, parce que peut-être qu'on aurait été dans le fameux syndrome. Rappelez-vous, quand les apôtres perdent Jésus, ils sont complètement perdus. Comme les Hébreux à l'époque de Moïse qui s'en va, il faut qu'ils remettent toute une charge et qu'ils reviennent avec des apparitions pour leur redonner la pêche. Sinon, ils étaient fichus, ils étaient cuits. Parce que là encore, ils regardaient le doigt et pas la lune qu'il y avait derrière. Alors, Jésus, j'ai lu un peu partout, enfin j'ai lu, je connais ma Bible un peu, et j'ai essayé de retrouver des épisodes où on parle, il y a beaucoup de grands hommes, d'agonie, de personnes face à la mort. Non, on parle, ils vivent, ils meurent. La seule agonie réelle qui est indiquée, c'est celle de Jésus. Donc Jésus, cette peur-là, il l'a connue. Et j'aimerais juste la relire. C'est donc Luc 22, de 39 à 46. Après être sorti, il alla selon sa coutume au mont des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Arrivé à cet endroit, il leur dit « Priez afin de ne pas entrer en tentation ». Puis il s'écarta d'eux d'environ un jet de pierre, se mit à genoux et pria, en disant, « Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe, toutefois que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui soit faite. » Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Et en proie à l'angoisse, il priait plus instamment et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Voilà, hier, Suzanne, c'était ça, son état. Ça s'entendait, ça se voyait. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il est marqué un ange lui apparu du ciel pour le fortifier. On aura tous cet ange-là. Sous quelle forme? Je ne sais pas, mais je sais qu'il y aura tous cet ange-là pour nous. Mais le fortifier n'empêche pas l'angoisse qui est dit juste après. Parce que ça fait partie de notre chemin. Et alors si on s'arrête là, évidemment, ça va être un peu court. Et on va vider les églises. Donc je voudrais continuer, encore une fois, par ce qui est écrit dans ce qui est notre seul viatique qui nous permet de traverser tout ça avec joie, comme on l'a chanté. D'abord, le constat qui fait suite à ce qu'on vient de lire sur notre état d'homme. Psaume 89, 49. Quel est l'homme qui peut vivre et ne pas voir la mort ou faire échapper son âme à l'emprise du séjour des morts? Tout va dans un même lieu, tout provient de la poussière et tout retourne à la poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Et enfin, dans Pierre, toute chair est comme l'herbe et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe. Voilà, ça c'est le constat. Et maintenant, la seule réponse que j'ai aux questions que j'ai pu soulever à ces veaux d'or qui sont là pour nous camoufler des choses et refuser de voir la réalité en face, c'est ça. Je vais vous en lire une dizaine. Et c'est ça qui nous maintient debout, c'est ça qui nous donne la joie, c'est ça qui nous donne l'espérance, et c'est ça qui doit nous faire chasser tous nos petits veaux d'or qui nous empêchent de voir la vraie lumière de notre Seigneur et qui nous donne notre vraie raison d'être ensemble ici et de se dire chrétien. Au-delà d'un but qu'on marque ou qu'on ne marque pas, ou de mille autres choses qui ne sont que des camouflages. Allons à l'essentiel. Et l'essentiel, le voilà, et c'est Dieu qui nous parle. Ils ne pourront pas non plus mourir, parce qu'ils seront semblables aux anges et qu'ils seront fils de Dieu, étant le fils de la résurrection. Nous savons en effet que si notre demeure terrestre, qui n'est qu'une tente, est détruite, nous avons dans les cieux un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite par la main des hommes. Cette grâce a été manifestée maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a réduit à l'impuissance la mort et mis en lumière la vie et l'incorruptibilité par l'Évangile. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. En vérité, je vous le dis, l'heure vient, et c'est maintenant où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Voici en effet la volonté de mon Père, que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Jésus lui dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. » Sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront en premier lieu. Encore quatre. Écoutons ces paroles. Toutes les réponses à nos questions, elles sont là. Toutes nos peurs face à nos veaux d'or, elles sont là. C'est ça notre socle. C'est que ça. Et tout ce qui en découle, ça vient de là. Mais c'est dans ce sens-là que ça marche. C'est pas en sens inverse. Dieu a ressuscité Jésus en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Vous avez fait mourir le prince de la vie que Dieu a ressuscité d'entre les morts. Nous en sommes témoins. Dans Romains, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. En effet, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera aussi par Jésus et avec lui ceux qui se sont endormis. Et enfin, je voudrais terminer par 1 Pierre. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts pour une espérance vivante. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Et si Yann a quelque chose à rajouter sur le veau d'or ou quelque chose. Est-ce que c'était un peu convenu qu'on fasse...
Non, je dis c'est malin parce que pendant qu'on est dans les confidences, avant d'arriver jusqu'ici, Luc en passant m'a dit je suis pas sûr d'arriver à conclure, si j'ai un problème, je compte sur toi. Et donc du coup, alors je me suis préparé, enfin très rapidement, en quelques minutes, je me suis préparé à conclure à sa place. Et alors maintenant, évidemment, il a réussi à faire tout du début à la fin. Donc la sagesse voudrait que je reste assis, mais du coup je suis frustré de la conclusion que j'avais préparée, donc je ne vais pas passer la semaine avec ça, donc vous allez y avoir droit. Il a dit l'essentiel, donc rassurez-vous. Est-ce que tu pourrais, José s'il te plaît, afficher Lévitique 21 ? Et je vais demander à quelqu'un de le lire, parce qu'en plus je n'ai pas pris mes lunettes. Non, c'est pas ça du tout. C'est l'épisode du serpent d'airain. Donc ça doit être dans Lévitique aussi, mais un peu avant ou un peu après, ou un peu plus loin. Pardon pour l'improvisation, hein, mais... C'est dans Lévitique, autour de 20 ou 21. Est-ce que quelqu'un pourrait trouver ça et nous le lire ? En plus, c'est quelques versets. Non, je me permets quand même parce que ça illustre simplement ce que Luc vient de nous dire. Ah, c'est Nombre ? C'est Nombre. Alors, c'est Nombre 21, peut-être ? Peut-être que c'est Nombre... Oui, c'est sûrement ça. C'est Nombre 21. Alors, allons-y, Nombre 21. Non plus. Si quelqu'un le trouve, est-ce qu'il peut le lire ?
Alors, l'Éternel envoya contre le peuple les serpents brûlants
Vas-y, vas-y. Voilà. Pourquoi est-ce que dans un cas, regarder un animal en métal, c'est de la religion, et pourquoi dans un autre cas, c'est de la foi? Ça, c'est une question qu'on peut se poser. C'est dans les deux cas, un animal en métal. Mais comme l'a dit Luc, et pardon Luc, pardon d'être bavard, et pardon de ne faire que redire ce que tu as dit, effectivement, dans le texte qu'on a lu, sur ce qu'on appelle le veau d'or, en réalité c'était un taureau, mais c'est par dérision que le texte l'appelle un veau, parce qu'effectivement le taureau c'est puissant, alors que le veau ça n'a pas l'image, la même image de puissance. Le début du texte, si vous vous en souvenez, le peuple s'aperçut que Moïse tardait. Alors, le peuple, là, il est bien dans ses baskets. Ce n'est pas le problème. Le problème, c'est simplement qu'il considère, lui, le peuple, que Dieu n'est pas au bon rythme. Parce que Dieu a rendez-vous avec le peuple. C'est tout à fait clair que Moïse va redescendre de sa montagne et va délivrer au peuple la parole de Dieu. Simplement, ça ne va pas assez vite aux yeux du peuple. Et donc, le peuple va décider que comme Dieu n'est pas au bon rythme, on va pallier l'absence de Dieu. Et du coup, tout va aller encore mieux. Bon, il n'y a pas de menace immédiate. On n'est pas du tout dans la même configuration que là. Parce que là, c'est on va tous crever. Et c'est ce que Luc a dit tout à l'heure. Là, on est dans simplement Dieu est un peu trop absent à notre goût. Et en fait, la religion, c'est ça, depuis toujours. La religion, c'est le veau d'or parce que effectivement, on veut bien croire qu'il y a un Dieu, mais il est tellement silencieux et tellement absent. C'est ça qui est pénible avec Dieu. C'est que on l'entend, on lui parle. Effectivement, on n'est pas devenu un peuple païen. On ne s'est pas tourné vers les idoles. On a toujours le même Dieu. On lui parle, mais... on a le sentiment qu'il ne répond pas beaucoup quand même. Ou en tout cas, on a le sentiment qu'il met du temps à répondre. Et donc, ce silence et cette absence de Dieu, tous les philosophes écrivent et parlent beaucoup là-dessus, ça nous amène à la religion au sens péjoratif du terme, c'est-à-dire qu'on prend ce qu'on a de meilleur en nous, on prend tout ce qui nous fait plus beau, donc les bijoux, et on en fait un Dieu. C'est-à-dire que quand Dieu ne veut pas se manifester, nous, on va le manifester. Je vais manifester un Dieu que je vais fabriquer de briques et de brocs avec tout ce qu'il y a de meilleur en nous. Alors, du coup, c'est vrai que je suis un peu méfiant, un peu dubitatif parfois, et pardon si vous pensez que c'est un manque de foi, mais quand j'entends « Dieu m'a dit ça, Dieu m'a parlé, Dieu m'a montré ça », oui, mais l'histoire m'a montré que parfois, c'était le veau d'or qui avait parlé, c'est-à-dire celui qu'on a fait parler, c'est pas le Dieu du ciel. C'est le Dieu qu'on a fabriqué sur la terre avec ce qu'on a de meilleur en soi. Parce qu'on est impatient. Et parce qu'on trouve qu'il a trop tardé et que maintenant, la réponse, puisqu'elle doit venir et puisqu'on a décidé qu'elle devait venir maintenant, elle va venir de nous. De nous déguiser en Dieu. Parce que les bijoux qu'on met ensemble pour faire un taureau en or, ça n'est rien d'autre que nous, tout ce qu'il y a d'humain, déguisé en Dieu. Alors que la foi, et même si, vous avez vu, ça y ressemble, parce que dans les deux cas, on va se tourner et même se prosterner devant un animal en métal. Alors on pourrait dire, c'est la même chose. Non, ça n'a rien à voir. Ça a à voir au niveau de l'apparence, mais pas au niveau de la réalité. La foi, c'est d'abord ce peuple-là du texte du serpent d'airain, qui a conscience que parce que il s'est révolté contre Dieu, parce qu'au départ il y a une révolte, on en a marre des cadeaux de Dieu, quand même, parce que la manne, l'écaille, il commence par dire, ça c'est une nourriture de, allez, je ne vais pas dire de gros mots, mais c'est comme ça qu'il faut le traduire, une nourriture de misère. Le vrai mot, il commence pareil, hein. Bon. Non mais, j'ai une vie de, pour parler à l'ancienne, de misère, et vous savez, parce que vous sortez dans la rue, que les gens ne parlent plus comme ça, ils disent un autre mot. Eh bien, c'est ce qui nous fait nous révolter contre Dieu. Et du coup, c'est ce qui fait que, là, pour le coup, cette rupture avec Dieu, au début, dans l'autre texte, on n'est pas dans la rupture avec Dieu. Là, on est dans la rupture. La rupture, elle provoque instantanément la mort. On le sait depuis Adam. Si tu fais ça, tu mourras à coup sûr. Et bien là, si tu dis que ce que je suis prêt à te donner, c'est de la misère, ben au revoir. Mais au revoir, je t'abandonne au serpent, du coup. Et c'est pas pour rien que c'est un serpent et pas un lion. Je t'abandonne au serpent parce que tu veux plus de moi, et donc tu tombes entre les mains du serpent. Et là, on n'est plus dans l'apparition de Dieu ou la parole de Dieu, elle ne vient pas assez vite. On est dans le « on va crever ». On est, comme disait Luc très justement, dans la peur de la mort. Et là, effectivement, se tourner vers quelqu'un qui ne nous doit rien, parce que la différence entre le veau et le serpent, que les Israélites n'ont pas donné un gramme d'airain pour fabriquer le serpent, Dieu a dit à Moïse, tu vas faire le serpent. Et c'est Dieu qui donne le serpent. Et vous savez, parce que vous connaissez les textes aussi bien que moi, que le serpent, Jésus va reprendre cette image à son propre compte en disant, comme le serpent a été élevé dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé, c'est-à-dire sur la croix. Et c'est notre regard vers la croix qui est équivalent au regard des Israélites vers le serpent d'airain, c'est-à-dire un regard qui dit, on va crever, on ne peut rien faire, parce que là, il n'y a plus d'hypocrisie possible. C'est pas, on va se fabriquer un truc qui va nous sauver. Quand vous avez été piqué par un serpent venimeux et que la morsure est mortelle, vous savez très bien, du coup, que là, c'est pas en se fabriquant des petits objets, c'est pas dans la religion que le salut, au sens délivré de la mort, va pouvoir venir. Là, on sait la réalité des choses, et on sait qu'on ne peut pas se mentir. Et on sait que l'homme qui est capable, à longueur de temps, de fabriquer de la religion, ne peut pas fabriquer son salut. On sait qu'on va crever quand même si on fait semblant. Et donc là, il faut se tourner vers quelque chose qui vient d'ailleurs. Pas le veau d'or, mais le serpent d'airain. Et c'est ce regard d'un être humain terrorisé par la mort, et confiant dans le fait que la seule chose, et disons-le puisque la Bible fait la comparaison, la seule personne qui peut nous délivrer de la mort, elle vient de Dieu lui-même, mais que par contre, c'est suffisant. Parce que si on réfléchit deux minutes, bon, faut pas être débile non plus. Quand on a une morsure de serpent, ce n'est pas parce qu'on va regarder dans une certaine direction que le venin va... Si, le miracle de la foi, c'est ça. C'est de dire, un regard vers ce que Dieu a envoyé pour mon salut suffit. Même si je suis inoculé jusqu'à la dernière goutte de sang de ce poison qui m'habite, et qui, en l'occurrence, traduit spirituellement, s'appelle le péché, un seul regard, ça va me rendre complètement pur de ça. Et ça, ça ne peut venir que de Dieu. Ça, je ne peux pas donner un gramme de moi-même pour le fabriquer. Parce que tous les regards qui ont été portés vers cette espèce de taureau qu'on appelle par dérision un veau, ça n'a pas, effectivement, Luc encore une fois l'a dit, délivré un seul être humain de la mort et de la peur qui va avec. Mais par contre, le regard vers le serpent, ça a sauvé, au sens premier du terme, tous ceux qui ont dirigé leur regard vers lui. Et c'est pour ça que Jésus pourra dire, bah, ce serpent-là, c'est l'annonce de ce que je suis. C'est-à-dire, vous êtes, et vous avez raison de l'être, terrorisé par la mort qui vient. C'est une question d'années, hein, pas chipoter. Alors, il y en a pour qui c'est quelques décennies, il y en a d'autres pour qui c'est quelques mois. Bon, heureusement pour nous, on ne le sait pas encore, hein, sinon on serait tous en train d'hurler. Mais bon, là pour le coup, c'est une question de temps, mais on sait une chose, c'est que ça ne va pas tarder. Ça c'est clair. Et la seule façon de me délivrer de la mort qui m'a envahi comme le venin du serpent a envahi tous les organes de ceux qui ont été mordus, la seule façon, c'est de regarder vers quelqu'un que Dieu lui-même envoie, parce que tout ce que je peux mettre pour fabriquer ça n'aurait aucun sens, ni surtout aucun effet. Mais par contre, le regard est suffisant. Et si je regarde vers lui, je suis délivré de la mort. Et ça, c'est la foi contre la religion. Alors, je suis, au sens péjoratif du terme, moi, un homme religieux. C'est-à-dire qu'effectivement, quand j'attends une réponse de Dieu et que ça ne vient pas, eh ben, je me la fabrique et je me dis, voilà, Dieu m'a dit ça. Ah ben, je suis content. Puis en plus, ça tombe bien, c'est moi en mieux. Ça, ça ne me délivrera pas de la mort. Mais le jour où j'ai conscience que la mort est là, en face de moi, et je vous propose qu'on prenne quelques minutes pour prier pour Suzanne, juste après. Quand la mort est là, juste en face de moi, je sais que là, on ne peut plus se mentir. Et que mon seul salut possible, c'est de regarder à celui que Dieu a envoyé. Merci.